Hi, how are you?
Je suis français.
But how are you? Can you speak in English?
Thank you very much.
No, I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger avec Caroline Tori et Jérémy Michel.
Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie du soleil de la rédaction, la capitaine du FC Expat, Caroline Tori. Comment ça va, Caroline?
Ça va très bien. Bonjour, Jérémy.
Alors, je crois que notre invité du jour incarne parfaitement le FC Expat. C'est un véritable globe-trotteur du foot, n'est-ce pas?
Absolument. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le plus international des joueurs français, direction le Cambodge, à la rencontre d'Antoine Lemarié. Antoine, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous les deux et avec plaisir. Merci. Merci à vous de m'avoir invité.
Alors, vous évoluez depuis le mois de décembre au sein du Bunket FC. Corrigez-moi pour la prononciation.
Bunket FC, c'est ça, oui.
C'est ça, le club de la capitale de Phnom Penh, club de première division. Avant cela, vous êtes passé par l'Australie, l'Angleterre, la Finlande pour 6 saisons avec une parenthèse grecque qui n'est pas votre meilleur souvenir. Et puis en fin d'année dernière, le Graal pour vous, vous décrochez votre premier contrat professionnel dans un championnat asiatique. Alors Antoine Lemarié, est-ce aussi bien que vous l'imaginiez ?
Alors, pour être honnête, non. Non, pour être très honnête. En fait, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé depuis que j'étais tout petit. Donc, j'avais forcément énormément d'attentes. Et paradoxalement, on va dire que c'est peut-être ma saison la plus compliquée depuis que je joue au foot. Même quand j'étais en Finlande, juste pour corriger la présentation, vous avez dit 6 saisons, c'était 3 saisons. Là-bas, j'étais semi-pro et j'étais obligé de travailler à côté pour gagner ma vie. Mais pour autant, j'étais plus épanoui, on va dire, sur le terrain, parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé dans mon nouveau club, malheureusement, je suis confronté à un temps de jeu très limité. Donc forcément, on va dire que tout ce qui est à côté du football, ça va bien. Mais vu que je suis quand même là principalement pour le foot et que on va dire que ça tourne pas parfaitement, forcément, ça impacte ma vie de tous les jours aussi.
Et comment vous expliquez cet engouement pour les championnats asiatiques et pour l'ailleurs en général? Parce que votre carrière se construit à l'étranger.
Oui, bah c'est parce que de mon côté, bon, je me suis rendu compte que je n'étais pas non plus un crack à la Mbappé et que ça allait être très compliqué pour moi de percer en France. Et à 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir partir faire des essais à Singapour. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu découvert le football à l'étranger, de toute autre mentalité, d'autres façons de voir le foot et surtout des opportunités que j'aurais pas forcément pu avoir en France. Et depuis, donc c'était il y a 8 ans, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais envie de faire et que pourquoi pas devenir footballeur professionnel à l'étranger si c'était pas possible de le faire en France. C'est tout aussi bien finalement.
Et quelle est la particularité du championnat cambodgien?
Une des particularités, déjà, je dirais que c'est que à Phnom Penh, on est un championnat de 10 équipes et je pense qu'il y en a au moins 6 ou 7 qui sont basées à Phnom Penh. Donc, même si c'est un championnat national étendu sur tout le pays, au final, c'est principalement dans la capitale que ça se passe. Et une autre particularité, c'est qu'en fait, d'une semaine à l'autre, on peut se retrouver à jouer au stade olympique de Phnom Penh, qui est beaucoup le stade à domicile de mon équipe. Comme partir jouer dans une petite province avec un petit stade de 200 places très champêtre avec des vaches et des bœufs à côté. Donc voilà. Donc même si c'est professionnel, parfois il y a ce côté un peu Cambodge quand même qui rappelle l'aventure, etc. Et même si tout est très bien organisé, il y a quand même parfois un peu des surprises comme ça aussi.
Eh ben, ce côté Cambodge, Antoine, justement, comment vous vivez votre vie au quotidien? C'est sympa, vous vous acclimatez bien, vous hors football?
Ouais, c'est sympa. Alors pour être honnête, j'ai une petite frustration, c'est que depuis que je suis arrivé ici, en fait, je suis tellement pris par le foot parce que je suis arrivé en plein milieu de saison, donc il y avait vraiment pas de temps d'adaptation, c'était directement au charbon quoi. Et j'ai pas vraiment eu le temps, même pas du tout, de quitter Phnom Penh. Donc depuis que je suis arrivé, c'est limite tous les jours entraînement, match, un jour de repos après le lendemain du match, mais pas de quoi partir explorer un peu les environs. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu frustrant parce que je sais que le Cambodge a beaucoup de beaux paysages à offrir, etc., et de temples à visiter, des choses comme ça. Mais bon, je suis pas là pour faire du tourisme.
Ah non, c'est la vie de footballeur professionnel, hein.
Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 3 mois que je suis là et j'ai quand même pas l'impression de bien connaître le Cambodge. Tout ce que je connais vraiment, c'est Phnom Penh et mon quotidien, qui sont un peu toujours les mêmes allers-retours du stade à chez moi. Évidemment, j'ai pu visiter ce qu'il y avait à faire à Phnom Penh, mais le Cambodge, c'est quand même bien plus que juste Phnom Penh.
Et est-ce que vous avez des contacts avec la communauté française sur place? Il y a à peu près 5000 Français, je pense, je crois, inscrits au consulat à Phnom Penh. Est-ce que vous avez l'occasion de, voilà, de vous retrouver, d'avoir cette envie de France, je dirais, au Cambodge?
Alors ouais, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. J'ai la chance même d'avoir pu en rencontrer plusieurs qui sont venus me soutenir au stade directement, qui me suivent en fait mes aventures sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube aussi. Et donc voilà, ils sont venus me retrouver, c'était très sympa. J'ai également l'ambassade du Cambodge, de France au Cambodge, pardon, qui m'avait invité pour un événement. Mais malheureusement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis très pris avec les entraînements et tout, donc j'avais pas pu malheureusement y être. Mais à part ça, ouais, c'est toujours sympa de rencontrer des Français de temps en temps. Ça m'est arrivé d'aller dans un resto tenu par un Français aussi, donc de temps en temps, ça m'arrive d'en retrouver, mais j'ai pas encore pu faire vraiment des soirées. Qu'avec des Français ou quoi. Après, c'est pas non plus ce que je recherche quand je pars à l'étranger, forcément, de toute façon.
Et sur YouTube, justement, Caroline, une question?
Oui, Antoine, vous documentez votre vie de footballeur sur les réseaux sociaux et la plateforme YouTube. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans le vlogging? Vos études de journalisme, peut-être?
Peut-être que ça, inconsciemment, ça a peut-être joué. En tout cas, ça a facilité la démarche, j'imagine, parce que j'avais déjà un peu des notions de montage, etc. Mais ce qui m'a poussé à me lancer, c'était en fait pendant le Covid. Forcément, il y avait pas mal de temps libre et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un créneau à prendre, dans le sens où je recevais déjà beaucoup de questions sur mes réseaux, sur Instagram, même si à l'époque, j'étais pas très suivi. Mais il y avait certaines personnes qui avaient remarqué que j'étais parti jouer en Australie, que j'étais parti jouer à l'étranger, etc., et qui me demandait comment j'avais fait, comment c'était possible. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire tout simplement une vidéo pour pouvoir répondre un peu à tous ceux qui me demandent d'un coup, ce sera plus simple comme ça. Et en fait, il y avait aussi un autre YouTuber qui lui avait un parcours un peu plus classique de footballeur, c'est-à-dire qu'il avait fait des centres de formation et tout. Et je voyais que ça marchait bien, les gens le suivaient beaucoup. Mais je me suis dit, moi, un mec comme moi, en fait, qui n'a pas fait de centre de formation et tout, c'est un peu plus compliqué de s'identifier. Et je sais qu'il y a énormément, voire même plus, qui n'en ont pas fait de centre de formation et qui pourraient potentiellement s'identifier à moi et voir qu'on peut avoir un parcours, même si ce n'est pas en France, à travers des centres de formation et tout, ou à l'étranger. Et donc, c'est ce qui m'a poussé un peu à lancer ma chaîne, en me disant que ça pourrait intéresser certains.
Et comment a été prise cette initiative dans le milieu qui reste encore un peu confidentiel sur la vie hors du stade?
Alors en fait, on va dire que c'est vraiment depuis l'an dernier que la chaîne s'est pas mal développée. Jusque-là, j'avais fait une vidéo peut-être tous les 6 mois, donc c'était pas grand-chose. Mes clubs ne s'en apercevaient même pas, je pense. Mais l'an dernier, dans mon club en Finlande, j'ai essayé de faire suivre un peu la saison avec des vidéos peut-être tous les 10-15 jours. Et pour le coup, mon club l'a très bien pris. Ils appréciaient vraiment... Tout le monde jouait un peu le jeu, c'était cool. Même ils étaient contents d'avoir des souvenirs de cette saison. En plus, on a eu une belle saison ensemble. En revanche, depuis que je suis arrivé ici, c'est vrai que c'est une autre mentalité, l'Asie. Et ma chaîne YouTube, bon, c'est pas forcément ce qui plaît le plus, je dirais. Après, c'est vrai que c'est aussi un niveau professionnel, alors qu'avant c'était que semi-professionnel. Donc bon, voilà. Parfois, ça a peut-être pu jouer en ma défaveur, mais c'est comme ça, maintenant la chaîne est quand même bien ancrée et ça fait aussi partie de moi, même si ma priorité c'est évidemment le football avant YouTube, mais ça m'embêterait quand même de devoir tout arrêter.
Ah, parce que j'essaie de continuer, mais... Ça nous permet de découvrir le championnat cambodgien et puis d'essayer de retenir les noms. Hein. Maintenant, Caroline prononce parfaitement le nom de votre club, mais c'est vrai que parfois, là, vous avez, voilà, quand on voit certaines équipes, voilà, on a besoin de vous réécouter pour bien assimiler la prononciation.
D'ailleurs, pendant mes vidéos, j'essaye de mettre les je laisse les commentaires.
J'ai vu ça. C'est excellent.
Ça permet d'écouter un peu le cambodgien, c'est spécial.
Non, mais c'est très chouette. Et justement, alors, quel conseil vous donneriez à un jeune qui souhaiterait, comme vous, partir à l'aventure du coup à l'étranger, quelqu'un qui n'a pas fait de centre de formation, quelqu'un qui n'a pas forcément le niveau du top 5? Alors là, s'il y avait quelque chose pour leur donner envie à la fois de rêver, mais aussi de réaliser ce que vous avez fait.
Alors, je pense que l'essentiel, c'est de prendre son courage à deux mains et de se lancer. Quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que déjà, en étant sur place, c'est plus facile et on maximise ses chances. Par exemple, si on est dans un pays où on veut aller faire des essais, On peut aller directement à la rencontre des clubs, etc. Donc, une fois qu'on est déjà sur place, ça peut vous ouvrir des portes parce qu'il y a des clubs, déjà, ils n'auront pas à vous payer les billets d'avion pour vous faire venir, etc. Donc, ça peut être déjà quelque chose. Après, c'est aussi un investissement de sa part. Donc, faut savoir qu'il n'y a aucune garantie que ça marche. C'est que des essais, en général, qu'on arrive à se dégoter. Et puis, le mieux, c'est quand même de contacter un maximum de clubs. Et on va dire, je sais pas, si vous contactez 100 clubs, en envoyant des emails avec votre CV, si vous avez une vidéo, c'est mieux. Peut-être qu'il y aura, on va dire, 10 clubs qui vont vous répondre encore. Mais à travers ces 10 clubs, vous risquez d'avoir peut-être potentiellement un essai. Et à ce moment-là, ce sera à vous d'être bon, quoi. Mais je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui m'envoient maintenant des messages en me disant, je joue maintenant en R2 en France. Est-ce que tu penses que je peux venir au Cambodge et tout? En vrai, ce qu'il faut pas oublier, c'est que entre le moment où j'ai quitté la France et j'étais amateur et maintenant, j'ai quand même eu 8 années où j'ai pu jouer à un niveau semi-pro et m'aguerrir en tant que joueur, etc. Donc, il faut pas non plus sauter les étapes et viser trop haut directement.
Bah, tu penses qu'à 48 ans, pour moi, c'est mort.
48 ans, je pense qu'il y a moyen, peut-être en D4 en Finlande, il y a quelque chose à faire.
Non, mais, ah, merci. Ah, mais c'est encourageant, ça, Antoine. Merci beaucoup. Caroline.
Antoine, est-ce que vous avez déjà d'autres envies, d'autres pays en vue?
Oh, c'est un peu tôt pour le dire, mais je sais que en fait l'Asie, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose qui me faisait rêver depuis longtemps. Et là, certes, je vis enfin mon rêve et ma saison en Asie, mais je suis pas complètement satisfait de ce que je fais. J'ai pas beaucoup de temps de jeu, donc j'aimerais déjà, valider en fait ce challenge asiatique et m'imposer dans un club ici en Asie. Ce serait déjà une bonne chose. Je pense avant de vouloir aller voir ailleurs.
On arrive, Antoine, à la fin du temps réglementaire déjà. Alors, j'ai une question. Dans les arrêts de jeu, allez fermer les yeux. Et dans vos rêves les plus fous, quel maillot vous aimeriez porter?
Ah, ça, c'est évident. Pour moi, c'est le maillot du Paris Saint-Germain depuis tout petit.
Ah là, un vrai, un bon, Caroline. Voilà pourquoi je voulais interviewer Antoine.
Eh oui. Et pourtant, c'est paradoxal parce que j'ai grandi dans le sud de la France. Mais je suis né en région parisienne et je suis resté fidèle à mes racines depuis toujours. Et ouais, donc grand supporter du PSG.
Bon, bah Antoine, on vous fait une place dans l'équipe. Nous, vous serez titulaire au sein du FC Expat, ça je vous le promets. Alors, on pourra laisser la place à Caroline au milieu de terrain. Hein, c'est la capitaine, c'est elle qui mène le jeu. Mais bon, je pense que vous pouvez faire une belle doublette tous les deux.
Et puis moi, elle pourra distribuer les caviars.
Ah, et moi, j'ai compris qu'à 48 ans, il vaut mieux que je sois dans les tribunes, c'est ça. Hein. Merci en tout cas Antoine, et alors on va continuer à vous suivre sur YouTube et puis à vous encourager. Allez, à très bientôt Antoine.
Merci beaucoup.
Merci. Jérémy, FC Expat, deuxième mi-temps, direction la capitale espagnole, j'ai nommé Madrid, où nous attend un de vos co-religionnaires, si j'ose dire, et si le PSG était une religion. Christophe Mérieux, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Christophe, vous êtes chef boulanger et vous êtes également très impliqué au sein du PSG Fan Club Madrid. Un fan club que l'on sent mobilisé et très actif aussi pour créer l'engouement autour du PSG. Christophe, vous vous donnez beaucoup de mal ou est-ce que ça y est, enfin, Paris suscite la même passion que les grands clubs européens?
Alors, avec les Qataris, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'attractivité. Ce que je déplore personnellement, mais oui, c'est vrai que Paris, maintenant, c'est devenu un grand club. Il y a des PSG clubs un peu partout en France. Il y en avait avant, il y a 20 ans, mais pas autant. C'est vrai que quand je retourne en France, je vois beaucoup de maillots du PSG dans le Nord, chose que je voyais pas avant. Et c'est un truc qui m'a pas mal... Oui, c'est différent. C'est plus facile. Même si je suis un petit peu vieux con, je préfère avant. Je préfère avant, mais bon, les temps changent. C'est comme ça.
Et Christophe, diriez-vous que vous êtes plus attaché au club ou aux joueurs?
Au club, aux valeurs du club. Les joueurs, ils passent et nous, on reste.
À qui dites-vous, Christophe? Moi, je suis depuis 1982 dans les travées du Parc des Princes.
Alors, du coup, Christophe, si je vous dis Kylian Mbappé au Real Madrid, vous ne changez pas de fan club?
Ah non, ben non, et c'est très bien pour lui qu'il y aille, mais déjà, c'est une équipe, c'est une institution, le Real, que j'aime pas trop. Et puis, non, moi, c'est Paris SG, c'est rouge et bleu et c'est rien d'autre, quoi. Même si j'ai des amitiés avec d'autres clubs, c'est rouge et bleu avant.
Comment c'est la vie à Madrid, en fait? Derrière ma question, est-ce que vous pouvez dire que c'est quand même une ville un peu nulle, où on se fait chier, et quand on s'appelle Kylian, c'est pas la peine de venir y habiter? C'est possible, ça?
Bah, je suis désolé, mais bah, c'est enfin après un footballeur pour qu'il s'ennuie dans une ville. Bon, il n'a pas la même vie que nous, quoi. Mais pour Madrid, c'est une ville qui est géniale, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expatriés, c'est parce que il y a une qualité de vie qui est quand même assez agréable. Et c'est pour ça que ça fait plus de 10 ans que j'y suis, quoi.
Moi, j'ai une question qui concerne le fan club et pour la vie justement de ce fan club. Ça aide aussi d'avoir un QG, un quartier général en l'occurrence. Pour le
Ah
fan
oui.
club Madrid, il s'agit du bien nommé Café des Sports Cascoro.
Qu'est-ce
Donc,
qu'on a de la
vraiment
chance d'avoir,
sur
qu'est-ce
la
qu'on a de la chance
prononciation.
d'avoir Pierre, le patron du Cascoro, qui nous accueille gentiment, qui est un supporter du PSG aussi. Et donc c'est un plaisir pour lui et puis et nous donc on a la salle du bas et c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment le truc fédérateur, je pense, qui va nous aider à développer le fan club, c'est notre QG. Parce qu'on y a bien accueilli et bah c'est notre maison quoi. C'est notre parc à nous.
Et qui vient dans ce QG? Ce sont des Français, il y a des Espagnols, vous arrivez à convertir quand même des supporters d'autres clubs à venir soutenir le Paris Saint-Germain ou ne serait-ce que pour l'ambiance, partager un moment avec vous?
C'est vraiment entre nous quoi. On a la salle du bas et pour l'instant c'est surtout des Français quoi, des Parisiens.
Mais
Christophe, quelle sera la prochaine étape pour le fan club Madrid?
eh ben comme j'ai dit s'organiser, enfin se créer en association parce que pour l'instant on n'a pas d'association officielle et se développer, essayer d'organiser des déplacements, essayer d'aller voir le plus de matchs possible et de voir les matchs entre nous quand on peut pas se déplacer.
On arrive à la fin de notre échange. J'ai trois questions supporters, Christophe. Quel est justement le joueur du Paris Saint-Germain qui vous a le plus marqué?
Rail. Rail.
Ouais. J'ai laissé exprès silence, parce que c'est vrai que quand on évoque Craig, ça, Caroline, tu peux pas savoir. Mais il y a un silence de cathédrale après. Quel grand joueur, quel magnifique
Après, c'est
footballeur.
dur d'en sortir un. Si je dois en sortir un, c'est Rai. Sinon, il y a Ronaldinho qui m'avait pas mal fait vibrer.
Ouais.
Même si il n'a pas marqué le club comme il aurait dû, mais c'était quand même assez sympa à voir.
Bon, il paraît qu'il a bien marqué les boîtes de nuit, en revanche.
Voilà. Mais il a fait deux, trois trucs quand même qui m'ont bien marqué. Paoletta aussi.
La
Lama, enfin bon.
Oh, toute
Bon,
une belle
bref.
équipe. Et puisque l'on parle de plusieurs joueurs, il y a un match qui vous a aussi procuré le plus d'émotions. S'il y en avait un, allez, un seul à sortir de tout ce que vous avez vécu.
Ça va être dur parce que j'ai tellement de. Enfin, moi, quand j'étais vraiment actif, c'était vraiment dans les moments durs. Mais on va dire le plus d'émotions négatives, c'est en 2008, déplacement à Toulouse. On joue pour la relégation, on doit gagner à tout prix et on se prend un but en fin de match. Je me rappelle, il y en a pas mal qui ont eu les larmes aux yeux. On était vraiment pas mal atteints. Je crois que le plus gros, le match d'après, j'ai pas pu y aller parce que j'étais déjà expatrié. C'était à Sochaux où la tension était vraiment à son comble. Mais c'était
Mais
vraiment le plus.
à
Oui.
Sochaux, le doublé d'Amara Adjané, je crois que nous a permis de faire l'une des plus belles fêtes jamais connues par les supporters du Paris Saint-Germain,
Voilà.
bien plus intense et plus forte qu'après la Coupe d'Europe. Parce que oui, Caroline, le Paris Saint-Germain a gagné une Coupe d'Europe. Et celle-ci, Marseille ne la gagnera jamais. Tu sais pourquoi,
Oui,
Caroline?
parce qu'elle n'existe plus.
Eh ben voilà. Allez, j'ai une troisième question pour vous, Christophe. Justement, en quelle année le Paris Saint-Germain gagnera-t-il la Ligue des Champions?
Bah, cette année.
Ah oui, cette année, bien évidemment. Et on est tous
Tant
nés
qu'à
à
faire.
Paris Saint-Germain. Bah, vous rejoignez de toute façon, Christophe, un nouveau club, si vous en êtes d'accord. Les supporters officiels du FC Expat.
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.